Bonjour, ici Grégory Philips, je dirige le service reportage de BFM TV. Depuis 3 mois, depuis le 19 janvier, les reporters de BFM TV couvrent toutes les manifestations contre la réforme des retraites, aussi bien les journées nationales d'action décrétées par les syndicats que les cortèges improvisés à Paris, à Rennes, à Nantes et un peu partout en France. Depuis 3 mois, nos reporters vous racontent toutes ces manifs, celles qui se déroulent dans le calme et aussi celles qui sont marquées par des violences, en essayant de documenter, de filmer tout ce qui se passe dans les cortèges et autour, parfois d'ailleurs en étant eux-mêmes menacés. On en avait parlé lors d'épisodes précédents. Comment filmer, comment raconter ces moments de heurts, d'affrontements et de violences? On va en parler avec Maxime Brandstetter du service police-justice, avec Nicolas Maru qui est le directeur adjoint de la rédaction et avec Jérémy Père, grand reporter. Nous sommes le mardi 18 avril, il est 17h, le traitement par BFM TV de la violence dans les manifestations. C'est l'épisode 46 du service reportage. Bonjour à tous les trois et merci de prendre un peu de temps pour échanger sur ce traitement de la violence dans les manifestations qui ont éclaté en France depuis 3 mois. On va commencer avec toi, Maxime. T'as couvert combien de manifs depuis le début de ce mouvement ?
Depuis le début de ce mouvement, j'en ai couvert 4. Je crois que ma première, c'est le 23 mars.
Dans quelles circonstances et de quel côté, si je puis dire ?
Sur les 4, j'en ai fait 2 côté force de l'ordre, une avec la Brave, donc les policiers de Paris, et une avec les gendarmes mobiles. Et côté manifestants, j'en ai fait 2. Alors à chaque fois, j'étais à un endroit précis, c'est-à-dire près du cortège de tête, là où il y a des dégradations, mais aussi parfois des manifestants pacifiques qui sont blessés. Ça, c'était l'un des 2 sujets notamment.
Toi, tu es spécialiste police-justice. C'est évidemment très intéressant pour toi d'être sur le terrain, de voir comment travaillent les forces de l'ordre, de voir comment réagissent les manifestants. Enfin, c'est aussi pour ça que tu fais partie des équipes envoyées sur le terrain.
Bah, bien sûr, parce que le maintien de l'ordre, c'est une matière à part entière de la police, de la sécurité, de la gendarmerie. Et c'est une matière très compliquée qui provoque beaucoup de débats sur l'utilisation de la force par les forces de l'ordre. Est-ce que elle est assez proportionnée? Est-ce qu'ils parfois ils vont trop loin? Est-ce que parfois ils ne vont pas assez loin? Côté manifestants aussi, comment ils réagissent? Qui sont les casseurs? Est-ce qu'ils sont blessés injustement? C'est une matière polémique qui en plus fait des dégâts matériels, mais aussi des dégâts humains. On parle des forces de l'ordre qui sont blessées, mais on a aussi récemment des chiffres de l'Observatoire des Street Medics qui indiquent aussi qu'il y a beaucoup de manifestants qui sont blessés. C'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche le droit de manifester, qui est extrêmement important. Et donc tout ça fait que c'est une matière de la sécurité vraiment essentielle et qui en ce moment provoque beaucoup de polémiques, il faut le dire.
Tu parles de polémique. Il y a notamment cette journée du 28 mars, je crois, où tu es avec la Brave. Tu es embedded, comme on dit, c'est-à-dire que tu les accompagnes. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord pour que tu puisses les suivre toute l'après-midi. D'abord, pourquoi on fait ça et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « Mais pourquoi BFM est embarqué comme ça avec les policiers ?»
Alors pourquoi on fait ça? On négocie à chaque fois pour essayer d'avoir des entrées avec la Brave, avec les policiers, mais on a aussi fait avec les pompiers. On essaie à chaque fois, BFM TV a plusieurs reporters placés dans la manifestation et on est aussi d'avoir nos entrées côté police, côté secours, etc. Là, on avait beaucoup négocié pour avoir des entrées côté de la Brave. En fait, on visait spécifiquement la Brave M, donc la Brave à moto, motorisée. On avait réussi à avoir évidemment l'accord de la préfecture de police, donc ça se fait avec leur accord uniquement. C'est eux qui choisissent avec qui on est, à quelle heure, donc c'est dans leurs conditions. Donc c'est important de préciser que c'est eux qui fixent tout ça. Donc forcément, ça restreint ce qu'on peut faire. Et donc, on avait un accord avec la Brave motorisée. Mais pour être tout à fait franc avec vous, ils n'avaient qu'une seule place. Et donc, je leur dis, il y a une seule place. Et donc, le JRI, le journaliste reporter d'image qui va y aller. Et moi, j'ai besoin de voir aussi en tant que spécialiste police-justice. Donc, je demande une autre place. Et ils nous débloquent avec une Brave à pied cette fois. Donc, une Brave tout simple. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec eux.
Donc là, tu les suis toute l'après-midi, toute la soirée. Comment est-ce que tu racontes ça?
Ok. Alignez-vous sur la gauche.
Ce sont
nos équipes hein, qui sont derrière, derrière les policiers.
Hé, hey, commandant, reculez, reculez, mettez-vous en ligne là, oui, on va attaquer. 313 transmettez.
Je le raconte tout simplement. Alors déjà, je le raconte dans le cadre que la préfecture de police a fixé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des interviews de policiers, on a seulement le droit de leur poser un micro et de filmer la séquence et de laisser vivre, de voir ce qui se passe. Donc si on y va, c'est parce qu'on est d'une part avec la BRAVEM, parce qu'elle est l'objet d'une polémique, avec des propos qu'ils ont tenus, il y a une pétition, on va en parler après. Et si on décide de suivre la BRAV, c'est parce que bah, ces manifestations, il y a du maintien de l'ordre, il y a du maintien de l'ordre qui fait polémique, comme on a expliqué. Et en fait, c'est essentiel de pouvoir voir comment ça se passe dans les rangs des forces de l'ordre, quelles décisions sont prises, pourquoi, et pour pouvoir donner matière à juger et à intervenir sur le maintien de l'ordre.
Évidemment, ce jour-là, tu n'es qu'une équipe parmi, je crois, une dizaine d'autres qui couvrent la manifestation en différents points du cortège et notamment, évidemment, auprès des manifestants. Alors évidemment, depuis trois mois, BFM TV est très regardé, très commenté et parfois critiqué, notamment pour son traitement de l'affaire Souleymane. Je rappelle rapidement les faits. Un étudiant tchadien interpellé dans la nuit du 20 au 21 mars. Quatre jours plus tard, Loopsider et Le Monde publie un enregistrement dans lequel on entend des policiers de la BRAVEM, justement, insulter et menacer le jeune homme. Deux enquêtes sont ouvertes, une judiciaire et une administrative. Évidemment, BFM TV a évoqué cette affaire, repris les révélations du Monde et de Loopsider. Le même jeune homme a été interpellé vendredi dernier, avant d'être relâché, sans aucune poursuite. On en a évidemment parlé sur l'antenne aussi, mais un site internet, Mediapart, pour ne pas le citer, accuse les télévisions et les syndicats policiers d'avoir sali à nouveau la réputation de ce jeune homme. Nicolas Maru, tu es le directeur adjoint de la rédaction sur le traitement médiatique de l'affaire Souleymane. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on a travaillé ?
Alors d'abord, il y a eu la première interpellation de Souleymane dont tu viens de parler, Grégory, quand Le Monde et Loopsider ont révélé le contenu audio. Évidemment, nous avons traité cette information, nous avons diffusé des extraits, nous avons fait réagir des invités dessus. Et ensuite, évidemment, quand Souleymane est sorti de garde à vue, nous avons cherché à le contacter. On a réussi à entrer en contact avec lui le lendemain, c'est-à-dire le samedi 26. On l'a donc longuement interrogé, lui et une autre personne qui était également à ses côtés et qui avait également assisté à cette scène et était victime de cette scène. Et les deux nous ont raconté, de leur point de vue, la façon dont s'était passé leur nassage et leur interpellation par la brave M. Nous leur avons donné la parole. Nous avons fait un sujet que nous avons diffusé dans la matinale et toute la journée du dimanche.
Il est l'homme visé dans cet enregistrement.
Tu la fermes ou t'en veux ? Je ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non ? Pour te remettre la main sur droite.
Souleymane a 23 ans. Il est étudiant tchadien en France. Face aux policiers de la Brave, il décrit une série d'intimidations mais aussi d'agression.
Il m'a attrapé vers le partie génitale et il m'a dit « t'as pas de couilles » et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma pièce d'identité. « Tu viens d'où ? T'es venu à la nage, t'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion. » Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Menacé parce qu'ils savent mon adresse, ils ont dit « ils vont passer derrière mes crédits ».
Ça, c'est pour le premier épisode. Et puis donc, il y a le deuxième épisode.
Celui du week-end dernier.
Donc, nous apprenons dimanche dernier que Souleymane a été interpellé et que les enquêteurs lui reprochent, d'après nos informations et d'après les informations de nos sources, d'avoir, avec deux autres personnes, tenté de mettre le feu à une poubelle en marge d'une manifestation qui se déroulait vendredi soir.
Et évidemment, je te coupe, comme la première interpellation avait eu un retentissement médiatique assez important, il était normal de raconter la deuxième interpellation.
C'était évidemment complètement nécessaire. Souleymane A était de facto devenu le symbole des violences policières pour une partie de l'opinion, pour certains médias. C'était évidemment notre devoir de voir exactement ce qu'il en était. Et donc, nous avons évidemment suivi cette affaire, c'est-à-dire que nous avons d'abord contacté nos sources policières pour savoir que reprochait-on exactement à Souleymane. Là, les informations ont varié, puisque dans un premier temps, on nous dit il lui est reproché d'avoir tenté de mettre le feu à une poubelle avec deux autres personnes. Dans un deuxième temps, on nous dit en fait, lui n'est pas suspecté d'avoir tenté de mettre le feu à une poubelle, mais d'avoir fait le guet pendant que les deux autres personnes tentaient de mettre le feu à une poubelle. Pour le moment, je précise que à ce moment-là, nous n'avons pas donné ces informations parce qu'on était toujours dans une phase de récolte des informations. Nous sommes entrés en contact avec son avocat, parce qu'il est défendu par un avocat, Arié Halimi. Cet avocat nous a donné la version de son client, qui est qu'il n'était absolument pas mêlé à cette affaire et qu'il accusait même les policiers qu'il avait arrêtés de les avoir incités, lui et les deux autres personnes, à mettre le feu à cette poubelle. Nous avons trouvé l'avocat à la sortie du commissariat. Avec c'est Jérémy Père, ouais. C'est toi qui a réalisé cette interview de l'avocat qui, évidemment, a assisté son client en garde à vue. Et donc, nous avons décidé, de façon coordonnée, de sortir cette affaire à 16h, dimanche, une fois qu'on était en possession de tous les éléments. Tous les éléments, c'était quoi? C'était déjà les informations que nous donnaient nos sources police. Ensuite, la version de l'avocat. Ensuite, l'interview, bien sûr, de l'avocat. Et nous avions un syndicaliste policier que nous avions fait en son, qui nous donnait les informations dont lui disposait. On s'est rapidement rendu compte, évidemment, que c'était version contre version. Nous, on n'est pas policier, on n'est pas procureur, on n'est pas juge, on est journaliste. Notre travail, c'est d'aller chercher les informations, de donner la parole aux uns et aux autres, et évidemment d'essayer de récolter un maximum de preuves. Et donc, à partir de 16h, avec Vincent Ventighem, qui est journaliste police-justice, en plateau, nous avons parlé de cette information. Ensuite, elle a connu un rebondissement dans la soirée puisque Souleymane est sorti de garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Et donc, lundi matin, dans la matinale de BFM TV, qui est un moment d'audience évidemment très important pour nous, nous avons fait un sujet très complet avec toutes les versions et avec l'information principale, à savoir que lui était ressorti seul, sans charge.
Je trouve ça bien de remonter le fil, parce que ça permet de comprendre effectivement comment on traite cette information qui évolue au fil des heures et comment on essaye évidemment de s'adapter avec la connaissance qu'on a des faits présumés. Jérémy, c'est toi qui rencontres l'avocat Arié Halimi. Il y a dans cette histoire une petite histoire, mais qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est que je citais Mediapart tout à l'heure, qui donc reproche à plusieurs médias d'avoir sali la réputation du jeune homme. Et pour illustrer ce papier sur Internet, il y a une capture d'écran de toi devant le commissariat. Donc,
au moment où je fais un duplex avec donc ma photo, mon nom, mon visage et l'illustration qu'on utilise à BFM, c'est-à-dire le visage et le tournage qu'on avait fait de Souleymane pour la première affaire. Donc moi j'ai fait cet après-midi-là du dimanche deux duplex, un premier à 16h10, un deuxième à 17h02. Le premier, j'étais juste après Vincent Ventighem qui a expliqué factuellement ce qui se passait sur cette affaire. Et moi, on me demandait l'état d'esprit de Souleymane dans sa garde à vue, puisque j'avais rencontré Arié Halimi, que j'avais son avocat et que j'avais pu lui poser des questions. Et je commence par donner son état d'esprit et je lance un son d'Arié Halimi, doit être 16h10 ou 11, qui explique, lui, sa version des faits, à savoir que les policiers... qu'il va vraisemblablement ressortir libre parce qu'il a, selon lui, des preuves, même en vidéo, que son client est innocent. Donc on le donne assez vite. Et à 17h02, je fais à peu près la même chose, sauf que je commence en expliquant un peu l'affaire, en précisant la version, que c'était la version des policiers, et ensuite je relance, je donne la version de l'avocat, et je relance le son en finissant, en chutant mes deux duplex de la même manière, en disant que, a priori, sa garde à vue devrait se finir parce qu'on arrivait au bout des 48 heures en début de soirée et que ce serait l'OPJ et ou le parquet qui choisirait les suites à donner à tout ça. Et donc ça, c'est le travail que j'ai fait cet après-midi-là. On était d'ailleurs la seule équipe de télé et les seuls journalistes devant ce commissariat où on est resté pour attendre, donc de 13h jusqu'à 19h30, si je ne dis pas de bêtises, la sortie de Souleymane pour l'interviewer en présence de Maître Arié Halimi.
Sauf que ta photo et ton nom circulent pour dénoncer
le mot sali à la télé, sous-entendu le traitement que j'ai fait. En tout cas, c'est la photo et les tweets, parce que il y a des tweets aussi qui ont été faits, notamment d'Edoui Plenen, où David Perrotin, donc la personne qui a écrit cet article, rétablit sur Mediapart la vérité qui fut piétinée par des médias, je cite, dévoués aux haines et des journalistes égarés ou stipendiés, avec donc ma photo, mon nom. Donc moi, le soir, je reçois des notifications sur Twitter avec des personnes qui disent « Quand est-ce que vous allez rétablir la vérité, BFM, etc. ?» Donc je me dis « Bon, c'est bizarre, j'ai dû dire une bêtise, je réécoute ce que j'ai dit. » Il n'y a pas plus factuel, c'est ce qu'on fait habituellement. Et donc après, je lis l'article de Mediapart et à aucun moment dans cet article, il y a mon papier qui a été dit.
Il n'y a plus mention de BFM TV.
Et très peu mention de BFM TV, si ce n'est de l'interview du syndicaliste dont Nicolas parlait à l'instant et puis du bandeau. Mais à aucun moment du fait que, par exemple, on avait donné la version d'Ariel Halimi extrêmement rapidement, qu'on l'a fait... à chaque fois qu'il y avait des éditions dans l'après-midi, donc à 16h à 17h, et puis qu'on avait attendu la sortie de Souleymane et qu'on lui avait donné la parole.
Je précise que depuis, Mediapart a enlevé cette photo et ton nom, et Edoui Plenel a retiré son tweet. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que tu as couvert quasiment toutes les manifestations depuis le début de ce mouvement social. Et tu l'as déjà raconté dans un épisode précédent, avec parfois des menaces de la part de manifestants. Enfin, tu as été agressé avec ton JRI lors d'une manifestation précédente. Donc évidemment, quand ton nom circule sur les réseaux sociaux pour une fausse accusation, c'est pas terrible, quoi.
Ça donne l'impression d'être une cible, enfin, potentiellement une cible en manifestation. C'est très compliqué de couvrir ces manifestations parce que, contrairement à Maxime, moi, je suis toujours du côté des manifestants et on a eu plusieurs fois des problèmes. J'ai eu mon collègue, comme tu l'as dit, Baptiste, qui a eu deux côtes fêlées après avoir été largement molesté, frappé au sol par des manifestants lors d'une manifestation. Moi, j'ai été insulté, on m'a menacé de mort, on va saigner, casse-toi du cortège, c'est les mots qu'on emploie, et ça c'est assez fréquent dans les manifestations, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup de journalistes de BFM TV, parce qu'on est des cibles, et donc évidemment ce genre d'articles, ce genre de photos n'arrange strictement rien. Donc voilà, c'est vraiment une question qu'en tout cas moi je me pose, qu'on se pose, de pourquoi ce choix de photos et de mots sur cet article.
Et moi, je partage l'émotion de Jérémy parce que dans cette affaire, comme dans toutes les affaires, évidemment, on est extrêmement vigilant à donner toutes les informations, à donner le contradictoire. Et encore une fois, nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas procureurs, nous ne sommes pas magistrats. Nous sommes là pour essayer d'aller chercher toutes les infos. Et quand il y a des infos contradictoires, on les donne. On essaye de le faire, évidemment, de la façon la plus honnête possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critiquable, mais je pense que la meilleure chose à faire, on peut sûrement s'améliorer de plein de façons différentes, mais pour nous juger, il faut d'abord nous regarder.
Merci à tous les trois.
Merci.
Voilà, c'était le 46e épisode du service reportage, un balado que vous pouvez réécouter quand vous le souhaitez sur toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.